Ah, on va laisser passer madame, allez-y.
Excusez-moi.
Alors, bon, je vous épargne un peu de marche. Vous voyez là-bas, on a la place aux Herbes, qui est une place de marché et qui a été longtemps à Grenoble la seule place publique où toutes les manifestations publiques se déroulaient, y compris les exécutions publiques. Avant la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Donc Charles Dupuis de Montbrun, rappelez-vous, celui dont je n'ai pas le portrait, le balafré, il a été décapité là.
Au marché aux
Herbes ? Oui. Qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Hein. C'était la place du Grand Conseil ou place du banc du Grand Conseil. Voilà, il a été décapité ici. Pierre de Sibéville a été pendu et brûlé ici. Alors, quand on était issu d'un milieu pas très favorisé, on était pendu. Si on était hérétique, on était en plus brûlé. Donc, les protestants étaient considérés comme des hérétiques, donc brûlés. Et si on était issu d'un milieu plus favorisé, on avait la tête tranchée. À partir de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, l'actuelle place Grenette deviendra la nouvelle place publique. Donc toutes les exécutions publiques auront lieu là-bas. Et assez tardivement, au début du XVIIIe siècle, un pasteur clandestin qui s'appelait Jacques Roger a été pendu place Grenette, par exemple. On va maintenant rejoindre la place de la Cimaise. Là, on commence à marcher. D'accord ? Allez, on y va, on y croit. Rive le règne de Louis XIV. Louis XIV. Voilà. Bon, je sais, j'ai parlé de la Révolution. On va de nouveau faire un bond en arrière et s'imaginer donc, eh bien, sous le règne de Louis XIV. Louis XIV, eh bien, son règne commence en 1661. Et lui, c'est bon, hein, il est catholique, il est proche des jésuites. Bon. Les idées de la réforme, ça ne lui va pas. Donc, assez rapidement, eh bien, il va faire en sorte eh bien, de s'en débarrasser. Alors, c'est surtout vers les années 1680 qu'il va envoyer des dragons, des militaires, chez les protestants. Ces gens-là vont loger chez les protestants. On appelait ça les dragonnades. Et en fait, ils vont très mal se comporter, ils vont être violents, ils vont donc violer les femmes, ils vont être violents avec tout le monde, ils vont piller ces gens-là pour les forcer à se convertir. Je vous montre une gravure qui montre, eh bien, ces dragons chez quelqu'un. On voit que ça se passe plutôt mal. Quelqu'un est pendu, les femmes sont malmenées. Voilà, les dragonnades. Si bien que beaucoup vont fuir. Beaucoup vont fuir et vont fuir dans les régions ou dans les pays où ils savent qu'ils seront bien accueillis. Donc ce sera bien entendu la Suisse. Alors chez nous, je parle du Dauphiné. Ce sera surtout la Suisse et l'Allemagne. Certains vont partir plus loin, vont rejoindre la Grande-Bretagne, la Hollande, et de là, les différentes colonies, en Asie, notamment l'Indonésie, ou en Afrique, notamment l'Afrique du Sud. Mais en Dauphiné, voilà, ce sera principalement la Suisse et l'Allemagne qui seront des lieux de refuge. Alors, Louis XIV, dès 1685, révoque l'édit de Nantes, c'est l'édit de Fontainebleau. Il révoque l'édit de Nantes, donc plus aucun droit pour les protestants, et en fait sous prétexte que tout le monde est devenu catholique. Ce qui était faux, bien entendu, mais voilà, c'est un prétexte. Donc il révoque l'édit de Nantes, et là, donc voilà, de plus en plus, eh bien, on fuit. Alors, ces gens-là, beaucoup vont passer par Grenoble. Pourquoi ? Parce que Grenoble était déjà une place de sûreté. On avait donc, depuis 1590, rétabli la paix. Donc, pour toutes ces raisons. Et souvent, Grenoble, c'était juste une étape, un lieu dans lequel on savait qu'on allait être en sécurité. On avait toujours quelqu'un qui pourrait vous accueillir, etc. Et de là, eh bien, on partait vers la Suisse, puis l'Allemagne. Enfin, non, en fait, les places de sûreté, c'est quelque chose qui va bouger selon les époques. En 1685, on ne parle plus de places de sûreté. En fait, on parle plus, les places de sûreté, eh bien, sont arrêtées dès Richelieu, en fait. Oui, voilà. J'étais en train de parler de la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, rapidement, je vous montre. Donc, Louis XIV envoie des dragons, c'est les dragonnades, donc, qui malmènent les gens. Il loge chez les protestants, il pille, il viole, il violente. On voit déjà quelqu'un qui est pendu, là, vous voyez une femme qui est violentée, voilà, les dragonnades. Et ça, c'est à partir de 1681. Et en 1695, Louis XIV révoque. Pardon, 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes et l'édit de Fontainebleau. Et tout se gâte. Donc les protestants fuient et rejoignent les régions ou pays qui peuvent les accueillir. Ce sera chez nous beaucoup la Suisse et l'Allemagne. Voilà. Mais ailleurs dans le royaume, d'autres vont rejoindre la Grande-Bretagne, la Hollande, et puis de là aller plus loin vers l'Amérique, vers l'Afrique, vers l'Asie. Donc. Et je disais que Grenoble servait d'étape, bien souvent. Je vous montre une gravure de ces gens qui fuient. Grenoble, souvent, va être une étape. On connaît quelqu'un qui va les accueillir, qui de là, ils vont pouvoir continuer leur trajet. C'est une plaque tournante, Grenoble. C'est un carrefour. Et on a cette histoire déjà depuis un certain temps, où on a une certaine liberté, le duc de Lesdiguières, place de sûreté, etc. etc. Donc, ces huguenots, voilà comment on les appelle. Alors, donc, le mot huguenot vient de l'allemand Eigenossen. Eigenossen signifie confédéré. C'est une déformation de Eigenossen, c'est-à-dire confédéré. C'était au départ un terme plutôt péjoratif que les protestants vont finir par adopter et revendiquer. Voilà, les huguenots. Les protestants, eux, appelaient les catholiques les papistes. Et donc, la monarchie appelait, eh bien, cette religion la religion prétendue réformée. La religion prétendue réformée. RPR, religion prétendue réformée. Dès 1688, un orfèvre de Nîmes va créer une croix, la croix huguenote que voilà. C'est une croix de Malte avec la colombe du Saint-Esprit, qui va être adoptée surtout dans le sud de la France au début, et puis ensuite dans tout le pays, surtout donc à partir du 19e siècle. Alors ces huguenots, ces huguenots du Dauphiné vont souvent passer donc par Grenoble pour aller plus loin vers la Suisse et l'Allemagne. Je vais vous lire un témoignage d'une jeune femme qui s'appelait Blanche Gamon. Voilà son périple. Blanche Gamon subit les dragonnades avec sa famille en 1683. Elle décide de fuir en septembre 1685 avec sa mère et un de ses frères, son père étant trop mauvaise santé pour cela. La petite troupe passe à Die en mars 1686, traverse le Vercors en passant par le Glandas en plein hiver. Ça se situe dans le Vercors.
C'est 2000 mètres d'altitude.
Absolument. Et rejoint Grenoble par Clèle dans le Trièves, dans les vallées de la Grèce et du Drac. Puis les vallées de la Grèce et du Drac. Elle s'y arrête 5 jours, le temps de trouver des guides. Finalement, un groupe de 5 personnes et 4 guides traversent le Grésivaudan, où ils sont arrêtés le 1er avril. Enfermée à Grenoble, puis à l'hôpital de Valence, où elle est battue et torturée, Blanche Gamon est libérée fin 1687 grâce à une forte rançon, après une tentative d'évasion ratée. Elle finit par rejoindre Genève en février 1688, puis s'établit à Zurich. Voilà le périple de Blanche Gamon parmi d'autres. Bien souvent, il partait, c'était l'homme qui partait seul, et donc ensuite il faisait venir le reste de sa famille, il trouvait des guides, qui parfois dénonçaient ces gens-là, donc retour à la caisse départ. Donc, pas simple. En 2013, on a créé un itinéraire culturel européen sur les pas des Huguenots. C'est le GR965 qui part du Pouet-Laval dans la Drôme, passe par là, rejoint la Suisse puis l'Allemagne jusqu'à Bad Karlshafen en Saxe. Pardon, pas en Saxe, dans une région qu'on appelle Hesse. Non, c'est la Hesse, voilà, exactement. C'est un parcours de 1600 km de longueur. Aujourd'hui, on a d'autres itinéraires qui se sont ralliés. On parle d'ailleurs aujourd'hui du sentier sur les pas des Huguenots et des Vaudois. Alors je vous montre, si vous voulez bien avancer. On voit, on peut lire ici, sous le GR9, le GR965 sur les pas des Huguenots. Donc il passe par là, vous continuez, vous pouvez partir d'ici. Vous continuez, vous rejoignez la tronche. Je ne sais pas, celui-là, il a été posé très tardivement. En fait, la signalétique, elle est relativement récente. Elle a quoi, 2 ans? Oui, oui. Mais je croyais que c'était fait déjà. C'est pas fait déjà?
C'est en cours.
Bon, alors moi, je vais vous distribuer, si ça vous intéresse, je vous distribue le petit dépliant sur les pas des Huguenots et des Vaudois en France. Vous l'avez déjà? Alors, il n'est pas forcément très récent, celui-ci. Je ne sais pas, vous regarderez. De toute façon, vous allez sur leur site internet. C'est un itinéraire européen. Alors, attention, cet itinéraire ne suit pas particulièrement ce qu'ont fait tous les Huguenots en fuite. Il a fallu trouver un compromis, bien entendu, hein, parce que il y avait toutes sortes de... En fait, ils empruntaient toutes sortes de chemins, bien entendu. C'était jamais de toute façon des grands axes parce qu'ils étaient en fuite, donc ils n'avaient pas envie d'être retrouvés. Donc il a fallu trouver un compromis pour que ça soit quand même un peu touristique, pour qu'il y ait des étapes, des choses à voir, de quoi être hébergé, de quoi se nourrir, etc. Donc en fait, c'est un sentier quand même très touristique. D'accord ? Donc voilà, si vous êtes partant pour réaliser... C'est 1600 km minimum. C'est possible. Et puis, oui, c'est juste l'aller. Une fois que vous êtes en Allemagne...
Pour eux, c'est un aller, ça.
Oui, oui.
C'est très beau, les paysages de Kiev, de
Matisse. Ah oui, voilà. Oui. Tout est beau, mais c'est vrai que, comme tu le dis, Guillaume... tout le Trièves. Alors, on a plusieurs fiefs. En Dauphiné, il y a plusieurs fiefs protestants. Il y a le Trièves, le Diois, d'accord. Mainz a été considéré à un moment comme la petite Genève des Alpes. La ville d'Audy est bien possédée une académie protestante, par exemple. Voilà, donc le Trièves, le Diois, mais aussi, bien entendu, les Hautes-Alpes, le Queyras, toutes les vallées, les baronnies,
hein.
Absolument, les baronnies, l'Oisans, absolument. Donc voilà, donc de nombreux fiefs protestants. Alors, en fait, j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Je vous ai dit qu'à Grenoble, on avait 20% de protestants. En Dauphiné, environ 13%, dans l'ensemble du royaume, à peu près 10%. Et on a, sur l'ensemble du royaume, 150 000 Huguenots qui ont fui. D'accord ? Et en Dauphiné, 18 000 environ.
Local ?
Ah oui, oui,
là,
non, mais c'est
ça
sûr.
Ça dépend des endroits, ouais. Mais certains endroits, c'est énorme.
D'accord. Alors, je précise que parmi tous ces gens donc, qui ont fui, parmi tous ces protestants, ceux qui ont fui et ceux qui n'ont pas fui, on avait de tout. On avait donc des nobles, mais des bourgeois, des artisans, des commerçants, mais aussi, et ça c'est propre au Dauphiné, beaucoup de paysans. Voilà, donc vraiment, vraiment de tout. Quand on a tous ces gens qui fuient, Sébastien Vauban, eh bien, alerte le roi. Sire, attention, arrêtez le massacre, fuite des cerveaux. Et il ne s'est pas trompé, parce que ces gens-là, eh bien, bien souvent lettrés, vont apporter tout leur savoir, leur savoir-faire, leurs connaissances, et ça va enrichir et permettre à certains pays de se développer, notamment l'Allemagne. Là, ils seront très bien accueillis. D'accord ? Donc, je ne peux que vous inciter à suivre ce sentier. consulter le site internet. Et à chaque étape, vous pouvez vous faire tamponner ce petit carnet.
Comme pour Compostelle.
C'est comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà.
Sauf que c'est l'inverse. Voilà.
C'est l'inverse.
On va à Compostelle, alors que là, ils plient.
Voilà. C'est un peu ça l'idée aussi. Alors, au Pouet-Laval, vous pouvez découvrir le musée du protestantisme dauphinois, qui est passionnant, qui est situé, en fait, dans un des rares temples du XVIIe siècle encore debout. Il doit sa survie au fait que c'était aussi un bâtiment municipal. Bien, alors on va faire maintenant un grand bond en avant. On va passer au XXe siècle. Au XXe siècle et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la communauté protestante, assez rapidement, va s'opposer au régime de Vichy. Je vous présente Charles Westphal. Charles Westphal, lui, était pasteur à Grenoble. Et donc, a écrit à toute la communauté protestante de France pour montrer sa désapprobation. Donc, parmi les premiers écrits de résistants que nous ayons, comptent ceux de Charles Westphal. La communauté protestante, ici même, va protéger les gens en fuite. On a toujours une structure qui s'appelle la CIMAD, et qui s'occupe justement de tous ces gens qui fuient. Actuellement, c'est tous les migrants dont on parle beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de similarités entre la façon de les raisons, les raisons sont un peu différentes, mais la façon dont on s'y est pris pour fuir. Hein. Je vous montre aussi, vous savez, quand vous allez au bout de la rue Saint-Laurent, vous rejoignez ensuite la commune de La Tronche, la grande rue de La Tronche. Et donc, dans la grande rue de La Tronche, vous pourrez voir la villa Brise des Neiges. La voilà. Alors ça, c'est une vieille photo. Elle a été rénovée depuis. Et elle se situe dans un très beau parc. Voilà l'arrière de la villa Brise des Neiges. C'est un bâtiment municipal aujourd'hui. Il y a aussi là un club de seniors, différentes choses, différentes activités. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une pension de jeunes filles tenue par cette protestante, Eva Péan-Pagès, qui a protégé une centaine de juifs, là. Malgré les descentes de la police, malgré plein de choses, elle a pu protéger une centaine de juifs. Post-mortem, elle a obtenu la médaille des justes parmi les nations. Si vous vous promenez là-bas, vous verrez, il y a une plaque. Autre chose, puisqu'on est tout près du Vercors, on voit le Vercors, regardez là-bas, on voit le Vercors. Les maquisards étaient surtout des communistes, donc les protestants avaient ils étaient assez mitigés par rapport à tout ça. En tout cas, voilà, en 1943, de jeunes étudiants en théologie de Montpellier se sont réfugiés dans le Vercors et ont créé, et ça, c'est unique en France, un maquis uniquement de protestants. Bon, ils n'étaient pas très très nombreux, qu'on a appelé le maquis des théologiens. Ce maquis s'est terminé dans le sang. Et parmi ces gens-là, il y avait le trésorier de la paroisse protestante de Grenoble, qui s'appelait André Girard Clos. André Girard Clos a été arrêté, torturé. Et il a été déporté, il est mort en déportation. Si vous visitez le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, vous verrez, non plus trois portes, mais deux portes, des petits cagibis dans l'immeuble occupé par la Gestapo. Et c'est là que la Gestapo plaçait les chefs résistants et autres. Et donc, on a retrouvé beaucoup d'inscriptions sur ces portes que l'on a placées sur des plaques en verre. Que vous pourrez voir, et vous verrez le nom de André Girard Clos.
Il était passé où, ce maquis ?
Il était à Trémini, c'est au sud du Trièves. Alors, maintenant, on va continuer. Et là, on va marcher. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Je voudrais pas qu'il y ait encore... D'accord, on y va. Je vous ai parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans les années 50, des protestants vont créer... une structure qu'on a appelée la maternité heureuse. C'est-à-dire le choix le droit à la contraception, le droit à l'avortement, etc. Et donc, ce sont donc des protestantes, des juives aussi qui ont créé ça. Et ensuite, on va créer le planning familial. Et le premier planning familial, le premier centre de planning familial qui a été ouvert en France, a été ouvert à Grenoble en 1961. Voilà, sachez-le. Et on doit tout ça donc à la communauté protestante, initiée par les protestants. Bon, alors maintenant, je fais un bond en arrière, du coup, et je me positionne face à cette toute petite partie de l'enceinte de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, construite à l'initiative du duc de Lesdiguières. Rappelez-vous, le duc de Lesdiguières. Le duc de Lesdiguières construit une nouvelle enceinte, double la superficie de la ville. Et regardez, alors ça c'est l'Isère. Là c'est l'Isère, donc l'Isère est là. Ce pont-là, qui a été longtemps le seul pont de Grenoble, se trouvait au niveau de la passerelle Saint-Laurent qu'on vient d'emprunter. Et en fait, ce que vous voyez là, ça s'appelle une échauguette, c'est une petite tour, elle est précisément là, d'accord ? Et ce qu'on voit là, c'est la tour qui est là, c'est la tour de Lille, première mairie de Grenoble qui date du Moyen-Âge. Mais voilà donc l'enceinte de Lesdiguières. Donc voilà à quoi ressemblait le rempart bastionné de Grenoble, construit à l'initiative du duc de Lesdiguières. Oui, alors... C'était une enceinte bastionnée. Vauban construisait des enceintes bastionnées, mais Vauban s'est inspiré de ce qu'avaient inventé les Italiens un siècle plus tôt. Les forts bastionnés, on les doit aux Italiens. Vauban n'a fait que s'inspirer. Bon, bien sûr, après, il avait sa patte, mais... Donc voilà l'enceinte de Lesdiguières. Alors, sur cette enceinte, à l'intérieur de l'enceinte, on voit un bâtiment qui est là. Alors, je vais vous le montrer en agrandi, mais je vous montre. On voit un bâtiment qui est là, qui ressemble à un cirque. Il est en dehors de l'ancienne enceinte, et ensuite, il a été dans l'enceinte. Remarque judicieuse. On en parle dans quelques instants. On va traverser. Alors, on va traverser comme ça, et les racines, elles se trouvent là, sur ce trottoir. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Là, on vous met 1595. Oui. En fait, Lesdiguières a construit l'enceinte à partir de 1591 et jusqu'au début du XVIIe siècle. Pareil pour la première Bastille, qu'on a gardé que ça. Ouais. En fait, là, c'était... Là, il y avait... Alors, je vais vous remontrer sur le plan. C'était la citadelle. Bon, alors là, on est très... Ben oui, voilà. Et puis on a construit d'autres enceintes. Attention à vous, hein. On a construit d'autres enceintes. On en a construit... Voilà, exactement. On en a construit déjà une autre vers 1630. Ensuite, on en a construit deux au 19e siècle. Et on a abattu le dernier rempart en 1924. Donc la ville était fortifiée jusqu'en 1924. Alors, de cette enceinte, il ne reste que ces deux portes. Ouais. Bah, vous faites bien de me le dire, parce que comme ça, je vais peut-être en parler, là.
Oui, mais alors, je ne sais plus quelle époque exactement elle date.
Alors, la Porte de France, 1620, et la Porte Saint-Laurent, 1615. Comment dire ? La cathédrale est à deux pas d'ici, juste à gauche, place Notre-Dame. Et par là, on était en dehors de la ville. C'était un faubourg, une banlieue, le faubourg Trécloître. Au départ, on était en dehors de la ville. Le faubourg Trécloître. Et on construit une enceinte. Avant la construction de l'enceinte, donc, il y a eu ce temple, d'accord, qui était un peu plus loin. Voilà, juste un peu plus loin, par là. Et puis, donc, révocation de l'édit de Nantes, 1685, et donc, on veut se débarrasser le plus possible des protestants, on l'a vu. Et donc, on donne un certain nombre de prétextes. Et par exemple, eh bien, on ne devait pas avoir un temple à l'intérieur d'une enceinte, encore moins près des autres édifices religieux. Donc, eh bien, on va finir par détruire ce temple. Et puis, pour accélérer les choses, donc, pour accélérer vraiment la destruction de ce temple, ce qu'on va faire, c'est qu'incognito, on va placer des fidèles catholiques et on va leur demander de chanter à tue-tête toutes fenêtres ouvertes. Parce que ce qui était reproché aux protestants, c'est de chanter, les protestants chantent beaucoup, chanter trop fort et que ça dérangeait les édifices religieux à proximité. Donc c'en a été la fin, eh bien, du temple, magnifique temple que je vous ai montré. Pourquoi je vous ai amené jusqu'ici ? Pour vous montrer ce qui était l'ancien palais des évêques de Grenoble. À partir de 1671, l'évêque de Grenoble, c'est lui, Étienne Le Camus. Étienne Le Camus est devenu aussi cardinal, c'est pour ça que vous le voyez avec son habit rouge de cardinal. Étienne Le Camus était un parent de Colbert, c'est quelqu'un qui est arrivé tout droit de Versailles. Bon, quand il est arrivé là, il s'est dit « qu'est-ce que c'est que ce petit palais des évêques ridicules ?» Donc c'est lui qui a initié la transformation de ce palais que vous pourrez découvrir à une autre occasion, magnifique escalier, voilà, il planifie aussi un jardin. Voilà. Oui, ça c'est autre chose. Voilà. Alors, voilà pour Le Camus. Et Le Camus, lui, au départ, les protestants, bien sûr, il n'en veut pas, et il est pour les dragonnades. Mais dès 1686, donc un an après la révocation de l'édit Nantes, il se dit, mais ça ne marche pas, les dragonnades. D'abord, ce qui serait bien, donc il arrête les dragonnades, il dit, ce qui serait bien, d'abord, c'est de nourrir les gens. Parce que comment prêcher la bonne parole, comment les convertir s'ils ont le ventre vide? Donc il nourrit les gens. Et ensuite il se dit, on va les convaincre par la prêche. Donc il va visiter les fidèles de son diocèse. Donc il restera finalement un évêque assez populaire. Assez populaire, y compris parmi les protestants. Bien, écoutez, on va maintenant entamer notre longue marche. Nous allons nous déplacer donc rue Trécloître. On fera rapidement un petit arrêt là, un peu plus loin, et ensuite on va aller directement au temple. Je voulais ajouter quelque chose. Partout en France, partout dans le royaume, mais pas qu'en France d'ailleurs, l'Église catholique, vous l'imaginez bien, a voulu reprendre le pouvoir. Donc on a parlé de la contre-réforme. Donc l'idée était d'attirer des fidèles et de les impressionner. Donc construction d'églises, construction de couvents. Imaginez qu'au cours de la première moitié du XVIIe siècle à Grenoble, on n'avait pas moins de 30 couvents. 30 couvents! Donc si vous visitez le musée de l'Ancien Évêché, qui est un musée consacré à l'histoire du département, dans la salle consacrée au XVIe et au XVIIe, vous pouvez voir une carte avec l'emplacement de tous ces couvents de cette époque. Il en reste encore. Il y a le couvent des Minimes. On va s'arrêter tout à l'heure devant la chapelle du couvent de Sainte-Marie d'en bas. On a Sainte-Marie d'en haut. On a les Bernardines, c'est aujourd'hui donc ce qu'on appelle le couvent Sainte-Cécile, les éditions Glénat. Et puis l'église Saint-Louis, l'église Saint-Joseph, enfin, voilà, d'accord. Donc là, c'est pas pour rien que l'église catholique, s'est installée là. Parce que c'est là que, dans ce faubourg Trécloître, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de protestants. Qui a toujours été d'ailleurs un lieu d'accueil des immigrés. Voilà, donc ça c'est la façade de la chapelle du couvent Sainte-Marie d'en bas, qui a longtemps été un théâtre. Maintenant, ça reste un lieu qui accueille plutôt des concerts de musique actuelle, musique nomade. Voilà, musique du monde, voilà, je cherchais le mot. Musique du monde, c'est un très beau lieu. Musique nomade, musique du monde, voilà, c'est un lieu très sympathique. Voilà, allez, sans... Oui, alors, attention, pas baroque, néoclassique. Alors que la chapelle de Sainte-Marie d'en haut est baroque. Alors justement, le baroque, pour attirer les fidèles, évidemment, il fallait en mettre plein la vue. des dorures, des angelots ont magnifié la création de Dieu, bien sûr.
Là, c'est la mosquée.
Tout à l'heure, je vous parlais de Vauban qui a alerté le roi. D'ailleurs, le roi en avait marre de Vauban. Hein. Mais bon, comme il avait tant de choses, le pauvre, que vous savez, il avait dédié sa vie au roi. Mais c'était un gars ultra intelligent qui voyait bien ce qui se passait. Voilà une des poudrières construites par Vauban. Car attention, la fameuse Bastille n'est pas de Vauban, hein, je le précise. Voilà, il a fait construire deux poudrières, il n'en reste une que voilà. Alors maintenant, la communauté protestante demande qu'on construise un véritable temple. Et c'est un architecte qui s'appelle Eugène Perronnet qui, en 1866, construit ce temple-là. En fait, ce n'est pas un temple, c'est une église néo-romane. C'est une église néo-romane de 300 mètres carrés. Vous allez voir, c'est assez vaste à l'intérieur. Alors, qui a été construite de la manière suivante, avec un soubassement en pierre, et tout le reste, c'est du ciment moulé, grande spécialité de la ville, à Grenoble, à partir du 19e siècle. Bon, je ne vais pas vous faire une visite sur le ciment moulé. Pas forcément, mais voilà, ça c'est une autre affaire. On va se concentrer sur les protestants. Et donc en plus, tout vient d'être rénové là. Donc c'est très beau ce que vous voyez là. Alors attention, Eugène Perronnet, lui, faisait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire construire des églises néo-romanes ou néo-gothiques. Il ne s'est pas trop soucié. Mais même déjà ça, ça a été très reproché par les catholiques. Notamment les patrons Gantier qui étaient installés tout près d'ici. Alors, au 19e siècle, et je vais finir avec ça, après je laisse tout de suite la parole à Elisabeth, je vous montre quand même un personnage important, Félix Neff, qui lui était originaire de Genève et qui a été un des grands acteurs de ce qu'on a appelé le réveil. Donc au début du 19e siècle, Félix Neff va passer du temps dans le Trièves, mais aussi dans les Hautes-Alpes. Et il va vouloir réveiller tout le monde. On s'était un peu endormi au niveau de la foi, au niveau d'un petit peu tout. Donc lui, il veut retourner, si vous voulez, à quelque chose de plus gai, de plus sensible, plus dans l'émotion. Et il est persuadé qu'en fait, il faut jouer sur la conversion. Voilà. Donc il va être en quelque sorte un évangélique. Et à partir de ce moment-là, on va avoir toutes sortes de mouvements qui vont beaucoup, beaucoup se développer. C'était déjà le cas en Grande-Bretagne. Donc, vous savez, quand on parle des adventistes, des baptistes, des pentecôtistes, etc., ça fait partie de cette mouvance-là. Ce monsieur-là a initié une école publique à Mainz. Et plus tard, un certain pasteur qui s'appelait Blanc va créer la première école normale protestante, donc pour former les instituteurs.